Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est Jean-Charles Curdali. Pour ce 13e épisode, je suis avec Stéphane Brun, ancien joueur de basket professionnel qui est notamment passé par le SLUC, l'équipe de Nancy, ma ville d'origine, avec laquelle il a remporté le titre de champion de France en 2011. Donc j'ai tout de suite remercié Stéphane pour ce titre d'ailleurs lorsqu'il est arrivé au studio. Moi je suis fan de basket depuis longtemps, j'avais un peu délaissé depuis quelques années et je suis retombé sur Stéphane en fait via sa chaîne YouTube First Team qu'il a cofondée et qui est dédiée à la NBA. Et depuis donc je reçois la NBA depuis octobre 2018. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai accueilli sur ce podcast. Stéphane dans sa carrière a joué dans 12 clubs. Il a fait une carrière qui a duré quand même 16 ans, donc c'est une longue carrière professionnelle avec laquelle il a connu l'équipe de France, il a remporté plusieurs titres de champion de France en Pro A et en Pro B. Et maintenant, depuis 3 ans, il est consultant et il travaille chez RMC, aussi bien sur la chaîne de télévision RMC Sport qu'à la radio. Et du coup, il fait des commentaires sportifs, donc il commente les matchs. Il est dans des émissions de basket et également des émissions Omnisport. Donc pas mal de sujets abordés, aussi bien pour sa carrière sportive, l'avant-carrière, pendant la carrière et l'après-carrière. Et des sujets connexes voilà, à tout ce que Stéphane a pu faire dans sa vie, tout simplement. Donc j'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à tout de suite avec Stéphane Brun. Bonjour Stéphane.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va très bien, en pleine forme, merci de m'accueillir.
Ouais, écoute, ça fait plaisir. Comme je te disais, je te remercie déjà, comme je t'ai dit, quand t'es arrivé pour le titre de champion de France avec Nancy en 2011, je le redis. Ça peut être affiché encore une fois d'où je viens et ça fait très plaisir. Et un fan de basket depuis que je suis tout petit, donc ça fait très plaisir de t'avoir.
C'est toi qui faisais la mascotte, non?
Je faisais pas la mascotte, non, mais j'aimais bien la mascotte. J'aurais bien aimé, ça peut être voir tous les matchs au moins. Ouais, la
mascotte. C'est physique?
C'est physique, c'est vrai.
Il fait 50 degrés là-dedans.
Putain, ouais. Bah écoute, dans une autre vie peut-être. Et du coup, j'ai un truc que j'ai vu sur Wikipédia pour commencer, qui, je vais être sûr.
Fais attention à Wikipédia, ouais, parce que c'est des mecs à RMC qui s'amusent parfois à changer ma page Wikipédia.
Ah, écoute, tu vas me le dire tout de suite, l'histoire autour du curling.
Voilà, c'est signé Arthur Robert, qui se reconnaîtra, qui est réal de l'after sur RMC, qui lui maîtrise Wikipédia et qui aime bien raconter des conneries et changer les fiches Wikipédia des uns et des autres.
Il faut que tu contres ça, parce que là, sur Wikipédia, t'es le Javal McGee de la glace.
Exactement.
Donc pour ceux qui connaissent pas Javal McGee, c'est bon, qui se fait un peu souvent, c'est un peu le bouc émissaire de
Shaquille O'Neal dans Shaquille O'Neal, mais qui est un bon joueur de basket. Donc, si j'avais fait la carrière de Javal McGee, j'aurais été très content. Il a une bague.
Oui, mais c'était plus le côté,
côté un peu béné, quoi, un peu idiot, quoi.
Alors, c'était pas très sympa. Et puis après, il dit en gros que tu soutiens le curling, et c'est vrai que le curling soit plus mis en avant du coup dans le sport. Donc...
Alors, pour être clair, j'en ai rien à cirer du curling. C'est pas mon sport favori.
Il y a pas de souci. Et c'est vrai que Javal McGee, c'est quand même un bon joueur, faut le dire. Et j'avais cru même entendre qu'il le prenait assez mal, justement, et qu'ils avaient un peu arrêté.
Ouais, il a mal vécu, alors qu'il a fait une belle saison cette année. Alors, dans le marasme des Lakers, il a été très bon. Il a quand même été champion avec les Warriors, avec un rôle plutôt important. Et puis, pour la petite histoire, Javal McGee, c'est le fils, mais là, tu vas pas connaître, d'un ancien joueur américain qui a joué longtemps en France, à Antibes et à Gravelines, Georges Montgomery. Donc, Javal McGee, c'est le fils d'un ancien joueur.
Ah, il fallait connaître, parce que pas le même nom de famille, du coup. Et ben. C'est incroyable de voir justement les lignées des fois de joueurs dans d'autres sports aussi, hein, mais de père en fils.
Beaucoup. Alors moi, là, je suis en train d'arriver dans une étape où maintenant je commente les matchs et que je commente de plus en plus de fils de joueurs avec qui j'ai évolué au début de ma carrière. Donc il y en a plein, et puis ça va être le futur de l'équipe de France, les fils d'Igbeu, fils Chikambu.
Chikambu aussi, qui a joué à Nancy aussi.
Ouais, Jason Chikambu qui est à Strasbourg. Non, dans tous les fils. Bah, après, c'est une génétique. Quand même, hein, c'est la science, c'est le gène humain, le gène du sportif. Et puis quand le gamin il est bercé toute son enfance, quand son père est encore joueur et qu'il l'emmène à tous les entraînements et tout ça, il vit aussi dans un milieu.
C'est vrai. Je me souviens de basket. J'avais lu la biographie de Kobe Bryant l'année dernière, justement quand il était parti en Italie, quand il était tout jeune, et racontait. Enfin, c'est incroyable du coup cette biographie où il dit à toute l'équipe, alors qu'il a genre 9 ans, je serai meilleur que vous de très vite.
Eh oui. Après, il était à Mulhouse, Kobe Bryant.
Le père de Kobe Bryant.
Le père de Kobe, et Kobe faisait des tirs pour les entraînements sur le parc.
À Mulhouse aussi, c'est vrai, exact. Ouais. Et ben, c'est encore une fois, ça confirme la génétique du coup.
Exactement.
Alors, je crois quand même, il y a quand même aussi une part Il y a beaucoup de travail quand même, il n'y a pas que la génétique.
Ah, bien sûr, il y a beaucoup de travail, mais bon, pour être amené à faire un sport, il faut être amené à l'avoir connu plus jeune aussi. Hein. Quand t'es enfant de basketteur, t'as forcément un ballon dans la main, c'est le premier truc que t'as, t'es bercé avec ça. Après, il faut avoir aussi envie de le faire, il faut aimer ce sport. Moi, je sais que mon fils, pourtant j'ai mis beaucoup de ballons dans les mains, il m'a pas l'air très passionné du basket, il fait du golf.
Ouais, j'ai vu ça sur Instagram, t'avais mis.
Il fait du golf, mais ça ne dérange pas. Mais après, il y a forcément, quand vous êtes baigné dedans et que vous allez voir tous les matchs de votre père, vous allez voir tous les entraînements de votre père, et que votre père dans le salon il regarde que les matchs de basket à la télé, vous êtes forcément baigné dans cette atmosphère-là. Donc ça aide à vous orienter sur ce sport-là.
Est-ce que toi t'as grandi justement une famille sportive?
Ouais, moi mon père était basketteur professionnel. Il a joué à Caen avec Georges Eddy, dans la même équipe que Georges Eddy. Donc moi j'étais baigné par le basket, même si j'ai commencé par le tennis. Parce que mon frère faisait du tennis, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tennis.
Ah, j'ai vu que t'étais 15-2 à 12 ans. Donc
j'étais 15-2 à 12 ans, j'étais 5e français à 12 ans.
Ah, ce que j'allais dire, c'est que ça parle plus aux gens, parce que 15-2, les gens ne savent pas forcément.
Ouais, 5e français à 12 ans, j'ai fait des grands tournois, Boulogne-Billancourt, les petits
As
les petits Princes à Annecy. Voilà, j'ai joué contre Mickaël Laudra, j'ai joué contre Paul-Henri Mathieu, cette génération-là. Beaucoup, beaucoup de tennis, et donc j'ai arrêté pour faire du basket, et maintenant je reprends le tennis. Et limite, j'aime autant le tennis que le basket. Chez moi, tu viens, tu peux très bien tomber sur un tournoi de tennis toute la journée. Je regarde du tennis. Là, il y a le tournoi de Madrid.
Je t'empêche de regarder le tournoi de Madrid. Là.
Non, tu m'empêches pas. Mais
on ira voir après.
J'ai regardé Wawrinka qui a mis une volée à Pierre Garbert là ce matin.
6-3, 6-2, j'ai vu.
Exactement.
Et attends, on va revenir juste. Donc, le tennis, dans un premier temps, t'as commencé quoi, vers quel âge? Très jeune, Emmanuel?
Très jeune, 4-5 ans. J'ai fait mon premier tournoi, je vais avoir 6 ans, je crois, avec une raquette qui était plus grande que moi.
Et justement, donc qu'est-ce qui faisait que tu t'étais mis au tennis plutôt que
Mon frère était au tennis, ma mère adorait le tennis. Donc moi, je suivais mon frère, parce que ma mère emmenait mon frère sur les tournois. Moi, j'étais derrière dans la voiture, donc forcément, pareil, à traîner avec une raquette à la main.
Tu devais beaucoup jouer, enfin, pour arriver 5e français.
Ah, je jouais beaucoup. J'étais en tennis études avec école le matin, tennis entre midi et deux, en mangeant un petit sandwich, après école, après de nouveau tennis le soir. C'est ça aussi qui fait peut-être que j'en ai trop fait trop jeune et qui fait que j'ai un petit peu saturé.
T'as lâché vers quel âge du coup?
J'ai lâché quand mes parents ont divorcé, en fait. C'était le début. Le début. Je sais plus. Quand j'avais 13 ans, je crois. 13 ans, j'ai arrêté, je me suis mis au basket.
Au final, t'as pas du tout joué.
Ouais, mais si, je tripotais le ballon. Jouais en amateur. J'accompagnais mon père quand il était manager général du Mans, le club de basket. Donc j'allais des fois avec lui voir les entraînements et tout ça, en loisir. Quoi. J'étais plus tennis concentré à fond, c'était mon vrai sport. Et puis le basket comme ça en loisir. Maintenant, après ça s'est inversé. C'était le basket, mon métier, le tennis en loisir.
Et au tennis, à l'époque-là, c'était qui tes référents justement?
C'était Boris Becker.
C'est les années 90 du coup.
Ouais, c'était Boris Becker. J'adorais Boris Becker, boum boum Becker, avec son service, son revers à une main. Après, j'ai adoré.
C'était les débuts de Agassi aussi,
un petit peu, mais j'étais pas fan. Sampras, j'ai beaucoup aimé, même si c'était un petit peu lisse à mon goût. Moi, j'aime bien les mecs qui sont un petit peu extravertis, qui sont un peu folklore. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a eu du Marat Safin. Mais après, après là, en ce moment, il y a du Nick Kyrgios, même si je suis fan absolu de Federer. Mais si je continue sur les mecs un peu folklore.
On s'entend bien, alors, Stéphane de Federer, c'est un prérequis pour être sur ce podcast, faut être fan de Federer.
Je suis fan de Federer, mais Federer qui me fait souffrir de temps en temps. Hein. Federer qui a perdu des matchs. J'ai cassé des miroirs à cause de Federer, parce qu'il perdait des matchs. J'ai lancé ma claquette, par inadvertance, ça a atterri sur un miroir qui a explosé chez moi.
Si c'est à Roland Garros, faut que tu prennes des assurances, parce que quand Nadal c'était.
Ah oui, c'était pas Roland Garros. C'était pas Roland Garros.
Tous les Open d'Australie, des choses comme ça.
Ah, Roland Garros, il gagne 3 matchs, je suis content déjà. C'est bien.
Et du coup, donc tu te retrouves à switcher vers le basket, et tout de suite, du coup, tu sens que, enfin, en mettant sérieusement dedans, que t'as des prédispositions dans le basket. Enfin,
je sais pas, j'arrive à Annecy.
Parce que t'arrives à 13 ans, donc il n'y a pas beaucoup d'années avant.
Ouais, j'arrive à 13 ans à Annecy. Ma mère m'inscrit dans un club de basket, je débarque, je connaissais personne. J'avais mon petit survêt Reebok Blacktop là, que mon père m'avait filé. Je joue au basket, oui, je joue au basket pour amuser, pour être avec les potes. De là à 13 ans, il m'imaginait pro, pas du tout. Moi, c'était plus pour délire avec les potes. Après, il fallait s'impliquer dans la ville. Tu sais, quand tu arrives à 13 ans, tu rentres au collège, tu quittes tous tes amis, c'est compliqué. Donc, le basket, c'était un moyen aussi d'avoir une vie un petit peu sociale, d'avoir des potes. Et ça a fonctionné d'ailleurs, parce que ces potes-là avec qui j'ai commencé le basket à 13 ans sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Donc c'était une bonne expérience, mais le basket pro, je ne l'avais pas envisagé. Après, quand j'allais à l'école, j'ai vite compris que les études, ce n'était pas mon truc aussi. Donc il fallait peut-être se rabattre sur autre chose aussi. Ouais.
Et en quoi ça t'a aidé le tennis, peut-être au niveau du mental, enfin le sport individuel par rapport au sport collectif, ça...
Très dur.
Moi j'ai fait un peu du foot aussi et je voyais que le tennis, quand j'ai vu qu'on là, on pouvait pas se cacher derrière des joueurs. Donc,
Tu sais que des fois j'y repense et j'ai un gros regret.
Il y a des bons et des mauvais côtés, j'imagine.
Ouais, mais j'ai un gros regret. Je me dis peut-être que j'aurais dû continuer le tennis. Des fois je regrette, je me dis j'aurais pas dû me mettre au basket, j'aurais dû continuer le tennis parce que t'es tout seul.
Tu dépends pas.
Parce que moi j'étais infect avec mes coéquipiers, il y avait des mecs que je supportais pas, des caractères différents, des mecs qui m'insupportaient, donc j'ai eu beaucoup de mal à vivre, à supporter. C'est ça aussi le sport co, c'est vivre en communauté, c'est accepter les caractères des autres, et moi j'avais beaucoup de mal là-dessus, accepter les erreurs des autres aussi. Et je me dis que le tennis, en fait, c'était un sport pour moi. Alors c'est dur mentalement, parce que c'est toi ta raquette, donc ta raquette, quand tu l'as jetée une, deux fois au bout d'un moment, et si t'es pas bon, c'est pas la raquette, c'est toi. C'est très très dur de rester stable émotionnellement au tennis, mais c'est un sport, je crois, qui était fait pour moi, parce que...
T'aimes bien contrôler, du coup.
Bien contrôler les choses, avoir cette capacité de d'enchaîner les points. Ouais, t'as fait un mauvais point, faut être la capacité de passer tout de suite au point suivant, de pas ressasser. Et puis, ça permet de beaucoup de réflexion dans la tête, tactiquement, capable de changer de tactique au cours d'un match, sur un premier set, sur un deuxième set.
T'es ton propre coach pendant le match, au final.
Exactement. Et puis, l'adrénaline que ça te procure, des points sensationnels que tu peux faire. J'adore ce sport. Franchement, c'est peut-être mon plus gros regret de me dire que j'aurais peut-être dû continuer dans le tennis.
Mais c'est vrai que moi je le voyais pas dans le sens là, mais ça, je me disais, tu vois, que ça peut donner aussi des avantages au niveau mental notamment, que n'ont pas forcément les gens dans le sport collectif, parce que tu es toujours tout seul quand tu es au tennis, donc ça te développe des choses qui sont utiles dans la vie, je trouve. Tu vois, quand tu défends une balle de break à 30-40...
Ouais, la pression elle est différente au basket, au tennis. Après, au basket, tu peux te cacher. Quand le moment est chaud, tu peux filer la balle à un autre mec. Tu peux, même si j'ai jamais été ce genre de garçon-là, moi, j'ai jamais eu l'habitude de me cacher. Donc, tennis, basket, oui, peut-être que le tennis m'a apporté certaines choses mentalement, au niveau de la confiance en moi, au niveau des choses comme ça. Après, il y a beaucoup de différences dans ce sport. Ouais.
Et quand tu arrives, du coup, enfin, à 13 ans, donc tu commences, mais après, il y a quelques années qui passent. Donc là, j'imagine, il y a un moment, tu sors du lot.
J'étais
aussi,
bon, oui, j'étais bon. Je jouais, après, j'étais à Annecy, je jouais en cadet départemental et j'étais surclassé en senior départemental. Donc le niveau n'est pas exceptionnel, mais je dominais. Enfin, je devais avoir. J'avais 17 ans, je jouais en senior avec des mecs de 40, 45, 50 ans. Donc je voyais que j'étais dominant, mais être dominant en cadet départemental, en senior départemental, ça ne te fait pas dire je vais devenir basketteur pro. Après, j'ai eu la chance que mon frère, à cette époque-là, faisait une fac de sport à Angers, l'IFEPS, je crois que ça s'appelait à l'époque, et que son prof de basket était le directeur de centre de formation de Cholet. Et mon père lui avait dit, mon frère qui est plutôt bon basketteur, est-ce qu'il est possible de faire un essai, tout ça. Donc j'ai été invité au tournoi de la Jeune France de Cholet, qui est un tournoi international, week-end de Pâques, chaque week-end de Pâques, qui existe encore maintenant. Cholet avait appelé 3-4 mecs pour faire des essais, pour jouer avec l'équipe de Cholet. Et puis j'avais été pris, donc c'était le début, j'ai envie de te dire, c'était le début, même si je ne me rendais pas vraiment compte du changement que ça allait me faire.
Ah, ça faisait un gros changement, parce que quand tu arrives dans un centre espoir comme ça, ça...
Bah c'est... Moi, je passais comme un pro déjà. Je passais 2-3 entraînements par semaine à faire le con sur le terrain pour les entraînements, à tirer du milieu de terrain, à déconner, quoi. À 2 entraînements par jour au mois d'août avec de la piste, de l'athlétisme et tout ça. Bon,
changement de vie.
Les 3 premiers mois, j'ai clapsé, gros, blessé partout, à mollet, adducteur. J'avais pas l'habitude. Mon corps, moi, j'étais pas formé encore. Moi, j'avais pas de muscle, j'avais rien du tout. Mon corps, il m'a lâché. La préparation d'août, mon corps, il était détruit.
Et donc là, tu t'es dit, si tu veux être pro, il va falloir taffer.
Ah, j'ai dit, ah ouais, d'accord, c'est ça le basket sérieux. J'ai dit, ah oui. Écoute, après, t'as la chance à Cholet de voir des joueurs professionnels. Et c'est quand tu es en espoir et que t'assistes aux entraînements pro, que tu commences à voir des matchs amicaux en préparation de l'équipe pro. Tu te dis, ah ouais, quand même, c'est bonnard. Il y a 5000 personnes. Tu vois les mecs qui débarquent sur le parking. Ils te racontent leurs histoires. Tu vois qu'il y a aussi un petit peu d'argent dans ce milieu-là. Les mecs qui débarquent avec les belles voitures. Tu te dis, ah d'accord, ouais, c'est pas mal en fait, basketteur pro. Donc il faut que je prenne ça sérieusement.
Motivé, du coup,
faut que je prenne ça sérieusement. Ouais.
Donc là, tu t'y es mis.
Je m'y suis mis avec encore mes qualités et mes défauts. Hein. Je dis pas que mes 3 ans à Cholet, ça a été un long fleuve tranquille. J'ai fait beaucoup, beaucoup de conneries. Mais au niveau du basket, je progressais. Je progressais beaucoup. J'étais peut-être celui qui, en arrivant, était le moins fort, le moins abouti au niveau des fondamentaux. Physiquement, j'étais peut-être le moins prêt aussi par rapport à ceux qui étaient déjà en place et ceux qui arrivaient. Mais j'ai eu un très bon formateur qui est Jean-François Martin, qui a sorti d'ailleurs tous les plus grands joueurs de Cholet qui ont été draftés par la suite. J'avais aussi cette mentalité de vainqueur, de vouloir être meilleur que les autres aussi, ce culot aussi, parce qu'il faut du culot quand t'es sportif professionnel, prendre des tirs que personne voudrait prendre et que tu mets, ben parfois ça te propulse, ça te fait gagner des matchs et ça te fait progresser et ça te met en avant par rapport à d'autres. Donc voilà, j'ai fait des conneries, l'école je vais lâcher très rapidement. Pour tout miser sur le basket, j'avais pas d'option B.
T'étais avec Michael Gélabal, c'est ça?
Michael Gélabal, il a 3 ans de moins, je l'ai accueilli.
À Cholet, ouais.
J'étais accueilli, il est arrivé, il était encore cadet. J'ai vu son arrivée, ouais, à Cholet, Mike Gélabal.
Un autre joueur, ancien joueur de Nancy aussi.
Mike, c'est mon ami. Michael, I got the ball. Michael Gélabal, je l'ai vu arriver tout chétif comme ça, il est arrivé à la mairie, on se dit, mais qu'est-ce qui c'est lui, tout ça. Et on lui dit, vas-y, tu sais dunker? Il dit, oui, je sais dunker, vas-y. En fait, il était en chaussures de ville, en jean, en doudoune. Il est arrivé, il nous a claqué un 3-6. On dit, ah ouais, d'accord, pas mal, Michael Gélabal.
C'est une belle histoire. Et donc, quand tu as commencé ta carrière en pro, donc tu démarres en... C'était en pro B que tu as commencé?
Ouais, j'étais prêté, en fait. Cholet me prête à Mulhouse, en pro B. Ma première expérience professionnelle. J'avais quoi, 20 ans? 20 ans, je débarque à Mulhouse. Et là, tu passes de centre de formation à on te fait à manger, on te fait ta lessive, on t'emmène d'un point A à un point B, t'as ton appartement, tu dois te faire à manger, tu te débrouilles pour aller à l'entraînement, obligation de résultat, des mecs qui sont payés, des joueurs étrangers, la concurrence. Donc ça m'a fait tout drôle, j'ai eu du mal. Cette année a été compliquée. J'ai sympathiser avec Germain Castaneau, qui aujourd'hui aussi est un très bon ami, qui est coach maintenant d'Orléans, qui lui était sur la fin de carrière, donc il m'a pris un petit peu sous son aile. Je sais pas pourquoi ça a matché d'ailleurs, lui il devait avoir 35, 36, moi j'avais 20 ans et il m'a pris sous son aile, donc je traînais avec lui, mais ça a toujours été dans mes habitudes toute ma vie. J'ai toujours eu des amis souvent plus âgés que moi, parce que moi j'avais toujours cette soif de connaître les histoires, les anecdotes. Moi j'adorais rester à table, écouter les gens parler, j'avais envie de m'enrichir de toutes ces histoires et de connaître aussi la culture basket et la culture le passé des gens. Donc c'est peut-être ça, pour ça aussi ça a matché. Mais après sportivement ça a été compliqué. Après, j'y arrivais en mode petit con, meilleur joueur espoir l'année dernière, je sais tout, j'ai un à apprendre, ouais, je vais tous vous défoncer.
C'est les erreurs de la jeunesse quand on a 20-21.
Voilà, donc le coach, je sais déjà ce que tu me dis, t'inquiète pas. Puis au final, je joue pas beaucoup. Il y a des matchs où je joue, où je fais des coups d'éclat, d'autres où je joue moins. Je suis suspendu une semaine parce que j'ai dit que, voilà, ce qu'on faisait, c'était de la merde. Bref, l'histoire de ma vie, quoi, toujours dans les embrouilles. Quoi,
un petit peu.
L'erreur de jeunesse, ouais.
Et après, t'es parti, c'est à Lausanne que t'as fait un premier...
D'abord, je suis à Nantes, ouais. Okay. Où je refais une année catastrophique en termes de comportement.
Et en probé encore, là.
Ouais, en termes de comportement, en termes de temps de jeu aussi. Donc, au bout de 2 ans, j'étais un peu grillé du basket français, comme ingérable, incoachable.
C'est ouf, parce que ça va vite, tu te rends compte, quoi. Tu te dis, tu fais 2 ans, là où tu prends pas forcément le truc du bon bout, et ça peut te griller ta carrière.
Ah oui, bah là, là, je suis passé pas loin de la correctionnelle. Et de devoir rechercher un travail ailleurs que dans le sport.
Et merci à Lausanne alors.
Merci à Lausanne. D'abord, je fais une préparation. J'ai pas de club. Je vais à Épinal m'entraîner avec Christian Monchot au Jet Vosges. Je dormais chez Christophe Imbert à l'époque, qui m'a accueilli. Donc on allait s'entraîner et tout ça. Et puis j'ai eu une offre de Lausanne. Donc j'ai pris un train. Épinal, Lausanne en train. Je partais un peu dans l'inconnu. Enfin, je sais pas, moi, 22 ans, on t'envoie à Lausanne. Pour un essai, exact. Et je fais un entraînement, et au bout de l'entraînement, on me dit c'est bon, t'es pris. Je dis, ah, d'accord.
Ah, c'est ça, c'est l'essai, c'est un entraînement.
Ouais, ouais. Après, c'était encore le basket à l'époque là-bas était semi-pro, donc il y avait pas beaucoup, c'était pas structuré. Il y a un mec du club qui me dit, c'est bon, tu restes, on te propose 500 euros par mois, un appartement, et puis tu peux manger au restaurant du club. Je dis, ok, d'accord. 500 euros par mois en Suisse, c'est pas beaucoup, hein, je préfère te le dire. Hein, tu vois, au McDo, le menu best-of à 25 euros, tu peux payer la mayonnaise ou payer ketchup, ça va vite.
Tu prends l'appart et tu prends les voilà, restos payés par le club. Quoi.
Tu prends l'appart, après, le problème c'est que c'est un entraînement le soir seulement.
Là, tes obligations, limite, là, tu sais que faut pas déconner, quoi. Faut
bah là, je sais que c'est ma dernière chance.
Déjà,
j'en ai une. Je sais que si je réussis pas, après, c'est mort. Et puis, tout seul là-bas, ça m'a permis aussi de se. peut-être remise en question aussi, de dire, te rends compte où t'es dans un championnat semi-amateur, à prendre 500 balles par mois.
Ça rend
impossible. Vivre dans un studio, alors Lausanne c'est une ville magnifique, hein, mais à t'entraîner une fois le soir parce que tous les mecs sont banquiers.
Ouais, c'est pas un pays de basket, c'est pas
ça. Ils travaillent la journée, ils viennent s'entraîner le soir, il n'y a que toi, plus un joueur ricain qui est pro. Donc moi la journée je me faisais chier parce qu'il n'y avait pas de salle de muscu, il n'y avait pas d'accès à la salle parce qu'il y avait des écoles dedans. La journée je galère, je traînais dans les rues de Lausanne à écouter, parce que à cette époque-là, et c'est incroyable, on m'avait offert à Noël. Le tout premier iPod qui était sorti, ça n'existait pas, c'était le tout premier, donc je l'avais eu, je m'étais téléchargé des chansons, j'avais galéré pour comprendre comment ça marche, et je me baladais dans les rues de Lausanne avec mon iPod à écouter de la musique toute la journée, à visiter des trucs, à marcher, j'avais rien à faire la journée, je m'ennuyais à attendre l'entraînement le soir. Et l'entraînement c'était mon défouloir quoi. Et les matchs je marchais sur le champ.
Je voyais les stats en pointe, t'étais à 23 points de moyenne.
Après c'était, le niveau était pas terrible, mais je pouvais shooter tous les ballons, donc ça aide aussi, mais ces 4-5 mois à Lausanne m'ont permis de me faire du bien déjà mentalement, psychologiquement, et puis de faire parler de moi et de montrer que j'existe encore pour que un autre petit club qui aime bien relancer les joueurs fasse appel à moi.
Et t'es reparti à Brest du coup,
ouais,
en Pro B. La super saison là, du coup j'ai vu il y avait une
demi-saison. D'abord je finis une demi-saison et après je prolonge d'une année, puis là c'est
la super saison. J'ai vu 17 victoires d'affilée, quelque chose comme ça.
Record absolu sur le nombre de victoires pour démarrer une saison, 17, avec l'Étendard de Brest, plus petit budget à l'époque du championnat. C'est une histoire incroyable, une équipe faite de briques et de brocs, avec des mecs qui doivent se rattraper comme moi, des ricains à 2 500 € par mois, des gens, des bénévoles formidables autour, et l'engouement qui prend. On part en stage à Tempes-sur-Lode, je crois. C'est loin, c'est dans le sud. C'est
tout dans le sud. Je ne parle pas là.
Et Brest, Tempes-sur-Lode, en Renault Espace, je peux dire que c'est loin. Mais au moins, ça permet de se connaître. Et puis voilà, ça a pris.
Il y avait plusieurs Renault Espace quand même.
Hein ?
Il y avait plusieurs Renault Espace.
Ah oui, il y en avait plusieurs quand même. Mais voilà, on a fait un petit stage de 3 jours, c'est sympa. Puis après, ça a pris. La ville était en feu. L'Étendard de Brest, c'était une magnifique épopée. Puis en plus, j'ai brillé. Puis ça m'a ouvert les portes.
Parce que champion de France, toi, t'es meilleur joueur français.
Ouais. Meilleur joueur français de la saison, on finit premier, donc on monte et on gagne les playoffs alors qu'on avait plus rien à jouer sur une finale à Bercy. Bref, on a tout.
Est-ce que le premier en Pro B est automatiquement
donc y a plus à cette époque-là, oui.
Il n'y a pas d'enjeu.
Non, tu finis premier du championnat, tu montes et après tu as les playoffs qui jouent et tu joues quand même maintenant aujourd'hui en Pro B, le premier monte automatiquement mais il ne joue pas les playoffs. Après, c'est du deuxième au neuvième.
Ah, il joue pas les
donc il est en vacances, mais à l'époque, nous on jouait les playoffs quand même.
Ce qui est toujours cool parce que tu as le match à Bercy en
plus. Ouais, et en plus, il y avait un enjeu pour les autres parce que si on gagnait les playoffs, c'était le deuxième de la saison régulière qui montait. Okay. Et donc en finale on a joué Évreux qui eux étaient troisième de la saison régulière et c'était Rouen qui avait perdu en playoff et qui attendait que nous on gagne pour les faire monter, donc on a fait monter Rouen.
Ouais, ça, c'est le système qui est comme ça.
Exactement.
Et donc la belle année à Brest.
Ouais, magnifique.
Et alors, j'ai une question, parce que du coup on va continuer sur ta carrière au basket, mais t'as fait plein de clubs au final, j'ai vu t'as fait 15-16 saisons en pro, t'as dû faire 12 clubs.
Ouais, manque de stabilité quand même.
dans la vie normale, quand on est pas sur le vidéo, les CV ils te diraient, tu changes le travail tous les ans, c'est quand même
ouais.
Bizarre.
Ouais, alors parfois c'était moi qui voulais me barrer, comme j'avais un contrat de 2 ans à l'ASVEL et au bout de la première année j'ai voulu partir à Gravelines. D'autres, c'est des clubs qui n'ont pas voulu me garder à la fin de mon contrat, qui n'ont pas voulu me prolonger. 2 fois ça m'est arrivé, à Nancy après le titre de champion, à Nanterre après le titre de champion, parce que je suis un joueur particulier et que c'est compliqué de me supporter plus de 2 saisons parfois.
Quand tu dis particulier, c'est quoi, c'est le tempérament, c'est le style de
jeu? Oui, tempérament, non, pas le style de jeu, le basketteur, je pense que le basketteur convenait à tout le monde, c'est plus le caractère, le comportement, les attitudes qui parfois pouvaient dépasser les bornes et pouvaient être pénibles, parce qu'un coach il n'est pas là pour gérer un joueur, il est là pour gérer une équipe.
Bien sûr, ouais.
Donc c'est compliqué pour lui de mettre une nounou à temps plein sur mon dos pour gérer mes impulsions négatives, que je pouvais avoir à l'entraînement ou en match, voilà, donc ça m'a coûté je pense des passages plus longs dans certains clubs. Ouais.
Est-ce que du coup tu l'avais vu, enfin, du coup, t'as loupé l'Euroleague avec
deux fois j'ai loupé l'Euroleague, c'est le plus gros regret de ma carrière, c'est de pas avoir fait une campagne d'Euroleague. Écoute, c'est comme ça, hein. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, je pense, même si à Nancy, Alors, s'ils prennent Adrien Mormant, donc sportivement, il n'y a pas photo, mais j'étais. J'ai mal vécu parce qu'avant la finale, il y avait les bruits qui couraient qu'Adrien venait, donc c'était un petit peu dur. Après Nanterre, Nanterre, c'était très compliqué pour moi d'accepter de pas continuer. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est, écoute, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, je ne vais pas en vouloir aux autres. À un moment donné, quand les erreurs se répètent, c'est à un moment donné, quand vous êtes le point commun de toutes ces choses-là, c'est qu'au final, ce n'est pas les autres, c'est vous.
Hein. C'est vrai. Et sur l'aspect justement au niveau de la vie perso, quand tu changes de ville comme ça, tous les ans, tous les deux ans, c'est que chaque fois faut avoir un appart, faut. Enfin, comment tu vis ça en fait en tant que.
Écoute,
tu prends pas la tête, tu te dis bon bah je prends un truc et puis je
sais pas, nous on est habitué à vivre comme ça, ouais, on est habitué à vivre comme ça, donc c'est pas dramatique en soi. L'appartement, tu sais, quand t'es sportif pro, t'es un assisté. Hein, là, t'arrives dans la nouvelle ville, l'appartement il est déjà prêt avec les meubles, donc bon, ça c'est pas quelque chose de très compliqué à gérer. Moi, j'aimais plutôt ça. J'aimais bien découvrir des nouvelles villes, une nouvelle salle, un nouveau club avec des nouveaux salariés, des nouvelles personnes. Moi, j'aimais bien. J'étais friand de découvrir ça. J'étais parfois, je me lassais. Donc, parfois, j'avais besoin aussi de voir ailleurs. Écoute, non, ça fait partie du métier de sportif professionnel de bouger. Donc,
ouais, mais du coup, bah, c'est ça qu'on essaie, on se rend pas forcément
compte.
Oui, ça,
oui, après, c'est compliqué quand t'as les enfants. Moi, j'en ai eu, mais sur la fin de ma carrière, il y avait des enfants qui étaient pas scolarisés. Donc, mon enfant était petit quand je finissais ma carrière. Donc, c'est plus facile de l'embarquer à droite à gauche. Mais pour des joueurs qui ont des enfants scolarisés, devoir bouger comme ça chaque année, c'est difficile aussi parce que les enfants, ils perdent un petit peu leur repère. Ils ont pas le temps de s'adapter, pas le temps de faire un cercle d'amis. C'est plus compliqué pour les enfants scolarisés que pour les parents.
C'est vraiment ce que tu dis, j'avais déjà entendu quand tu as assisté un peu les sportifs pros, c'était Yannick Agnel qui avait dit dans un podcast, et dans Nouvelle École, un autre podcast qui interviewe des différentes personnes qui arrêtaient l'année dernière, et il expliquait, comme tu disais, que en fait, t'étais, je sais pas si tu vois Yannick Agnel, le nageur.
Oui, bah, oui, merci.
Non, bah, tout le monde connaît pas, c'est vrai que tu baignes dans le sport, mais tout le monde le connaît pas, Yannick Agnel. Et il racontait justement que ça avait fait très bizarre qu'elle avait arrêté sa carrière parce qu'il fallait se redriver.
Mais il faut que les gens se rendent compte que les sportifs pros, on ne branle rien, mis à part s'entraîner. Tous nos papiers sont faits par des gens, déclarations d'impôts sont faites par des gens, accident de travail, tout est fait par les gens, demande de carte vitale, demande de mutuelle.
Tu joues quoi?
On fait rien, tu t'entraînes. Après, c'est fait en sorte aussi pour que tu n'aies pas d'autres choses à faire et que tu sois vraiment concentré sur le terrain et sur le basket pour être performant. Mais il faut aussi se rendre compte que quand ça s'arrête, et ben il y a certains, alors encore moi, je savais comment faire des trucs parce que je m'étais renseigné, mais tu as certains joueurs qui, quand leur carrière s'arrête, ils sont incapables de faire quoi que ce soit au niveau papier. Et c'est dramatique. T'as des mecs qui se retrouvent avec maintenant j'ai pas payé mes impôts, j'ai pas fait des trucs comme ça, donc c'est difficile. Oui, nous sommes assistés très clairement.
Okay, bon, bah, c'est un truc que les gens savent pas forcément de l'extérieur. Et pour revenir du coup,
pour prendre rendez-vous chez les médecins, tout ça, rendez-vous, tout ça. On nous dit juste qu'à 14h, faut que tu sois là. Voilà.
Les choses courantes de la vie,
exactement.
Tu les apprends à 35 ans, ouais. Du coup, après ta carrière, quoi. Et après, t'es parti pour revenir sur tes différentes expériences dans le club, t'es parti à Split.
Ouais.
Ça, c'est où? C'est en Croatie? C'est où Split? C'est en Pologne ou Croatie?
C'est pas où c'est Split?
C'est en Croatie, non?
Ah oui, c'est en Croatie.
C'est en Croatie, hein. D'accord, ouais. Là, t'es parti en Croatie comme ça et là, c'était assez compliqué, non? Parce que
c'était compliqué. Globalement, l'expérience est positive. En fait, je finissais deux saisons à Gravelines, où individuellement j'étais plutôt bon, alors que collectivement ça avait été compliqué. Puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de me barrer à l'étranger, j'ai envie moins de goûter ça. Alors, j'attirais pas forcément les grands championnats et les grands clubs, mais quand Split est arrivé, moi, c'est. Qui suis un amoureux de mon sport, Split, ça me parle forcément, hein, la Jugoplastica, le titre qui a tant dominé, l'équipe qui a tant dominé en Europe par le passé avec Tony Kukoc, avec Dino Radja, avec des joueurs légendaires. Donc j'ai dit oui tout de suite et puis je suis arrivé. Ce qui m'a posé un souci, c'est qu'en fait j'ai fait la campagne d'équipe de France de qualif l'été avant Split et que j'ai pas pu faire de prépa avec eux. En fait, je suis arrivé et le championnat a commencé une semaine après, donc pour une première expérience à l'étranger. J'aurais voulu faire un mois et demi de préparation avec eux, apprendre à connaître mes coéquipiers, apprendre à connaître la culture, apprendre à connaître le coach, ses façons de jouer.
Là, t'es arrivé direct au début.
Et je suis arrivé, et le championnat commençait une semaine après, donc j'ai fait un match amical avec eux, et ça a été compliqué, et ça a mal débuté, en fait. J'ai pas eu le temps de bien m'adapter, mais globalement, j'en tire que du positif, des séances d'entraînement très dures, un coach magnifique que j'ai adoré, avec qui j'ai adoré partager ces quelques mois-là, très dur sur le terrain, mais très humain en dehors, des coéquipiers aussi formidables qui m'ont vraiment aidé, des mecs avec qui je suis toujours en contact, une ville magnifique, Split au bord de plage, c'est bord de mer, c'est une ville exceptionnelle, une qualité de vie, de nourriture, franchement c'est magnifique. Alors j'ai souffert sur certaines séances d'entraînement parce que c'était dur, c'était intense, j'ai dû quitter ce club parce que j'étais plus payé, mais globalement...
Parce que c'était le club avec des problèmes financiers du coup.
Ouais, et puis enfin, comme beaucoup de clubs dans ces coins d'Europe là, parfois il y a les salaires qui arrivent pas, et puis quand tu vas les voir ils te disent demain, c'est leur mot préféré, demain, tomorrow.
Il n'y a pas de contrat de travail
Non, à l'époque c'était compliqué, maintenant tout est un peu plus
professionnalisé,
légiféré par la FIBA, ouais, à qui tu peux déposer des recours et tout ça, mais à l'époque j'étais pas, ça n'existait pas. Donc voilà, j'ai dû quitter parce que j'étais plus payé, donc à un moment donné je suis quand même loin de tout le monde, ouais. Ça reste quand même mon métier, même si c'est ma passion et un plaisir de l'entraînement, mais ça reste quand même un métier, mon gagne-pain quoi. Donc j'ai fait un mois, deux mois, trois mois, et puis après j'ai dit écoutez, stop, moi je rentre à la maison.
J'ai entendu une histoire, je sais pas si tu l'as raconté, l'histoire du poker à Split. Là. Ah. J'ai entendu, alors, tu l'as déjà expliqué dans une émission, mais j'avais trouvé ça. Si tu veux le raconter, vas-y.
Ah, j'avais raconté ça de l'émission de Daniel Riolo.
Ça avait fait marrer en préparant.
Bah, parce que à Split.
Ça montre un peu ton côté impulsif. Là,
ouais, parce que les entraînements étaient durs, donc je faisais pas grand chose, mis à part la salle, manger et chez moi me reposer. Puis. Puis comme à 21h j'étais chez moi et que il fallait bien s'occuper de 21h à 23h, 23h30 avant d'aller dormir, je me faisais des petites parties de poker en ligne. Alors faut savoir déjà j'avais bien galéré pour pouvoir accéder à ces sites de poker français, parce que avec les adresses IP et tout ça, donc il fallait, je suis allé voir sur internet comment on fait pour trafiquer l'IP et tout ça, bref j'avais galéré et j'avais réussi, donc je faisais des petites parties de cash game, et puis sur un tournoi à 1 ou 2 euros, soit cash game à 1 ou 2 euros, j'étais vraiment bien, j'étais en train de plomber un mec et tout ça. Et puis...
À partir des gens, 1 ou 2 euros, ça veut dire la cave à 200 balles, hein, parce que quand tu dis 1 ou 2 euros, ça fait genre. Tu jouais pas 1 euro, tu jouais. T'avais une cave à 200 euros du coup, sur la table.
Oui, j'avais 200 et quelques de stacks, mais c'était des mises.
Blind petit, blind
à 1 euro, big blind à 2 euros. Et j'étais en train de plomber un mec et tout ça, j'étais en train de le plier, et puis je me dis tiens, je fais un dernier petit coup avant d'aller me coucher, parce qu'il devait être 23h30, et puis je touche paire de rois. Moi je mise beaucoup, le mec mise beaucoup, bref, on va jusqu'à la rivière et tout ça, et moi j'avais carré de rois, parce qu'il y avait deux rois sur le tapis, donc je pense que j'ai dû gagner, donc j'envoie, je devais être à 350, j'envoie 350 comme ça, le mec il me suit, je suis content, bref, je crie comme ça, après je vois que je suis à zéro, donc je comprends pas, donc en fait je vais voir l'historique de la main, et en fait lui m'avait fait qu'un flush. Donc je m'étais fini qu'il a
pas compris.
Et là j'ai disjoncté. J'ai jeté l'ordi qui est passé à travers la fenêtre, qui est tombé sur le resto en bas, qui a pété une table. Donc j'ai dû m'excuser. Ouais. Il parlait pas bien anglais. Les flics sont arrivés. Ils ont appelé mon général manager du club. Bref. Au final, je me suis couché. Il était 2h30 du matin.
Alors tu voulais juste jouer les petites mains tranquilles.
Ouais, exactement. Et le lendemain matin, l'entraînement, j'ai morflé.
Et du coup, j'imagine bien, t'as carré, tu te dis, bon, bah, je mise, il paye, j'aurais même pas
ce qui se passe. Oui, mais je vais pas regarder, j'étais content.
J'ai gagné, et puis voilà. Ouais. Et puis, qu'un flush, quoi.
J'ai eu zéro, je dis, mais c'est pas possible.
Bon, retour en.
C'est la vie du poker, ça.
Ouais, c'est la vie.
Les bad beats.
C'est
la vie des bad beats.
C'est la vie des bad beats, exactement. Retour en France après.
À Nancy.
Dans une belle ville, du coup.
Ouais. À Nancy.
Que tu découvres.
Beaucoup d'appréhension.
T'arrives dans un club en plus qui.
Qui tombe bien.
Qui vient de finir champion de France et qui. Enfin, qui est 4 fois d'affilée de finaliste en champion de France, du coup, ouais. De 2005 à 2008.
Et qui finit par gagner, qui joue l'Euroleague.
Moi j'ai subi 3 années, je te disais, 3 défaites consécutives entre 2005 et 2007. Ouais. Contre Strasbourg notamment. J'ai testé Strasbourg à l'époque.
Et Tariq Kersey.
Tariq Kersey et les frères Greer qui étaient passés aussi.
Ricardo et Jeff.
Qui jouent à Strasbourg.
Et qui ont été champions avec Strasbourg avant. Mais Nancy, non, beaucoup d'appréhension parce que ville de l'Est que tu connais pas, tu te dis ah, ça peut être froid. Mais au final, non, ville magnifique, j'ai adoré. J'ai adoré mon passage nancéen, j'ai adoré ce club, j'ai adoré la salle qui était magnifique, elle a été refaite. Le Palais des Sports de Gentilly, le public énorme, j'ai adoré les gens dans les bureaux. Franchement, c'est un super club, le SUC Nancy. J'ai vraiment adoré, je me suis éclaté, mon fils y est né. Donc j'ai une attache particulière avec cette ville déjà. Et puis sportivement, j'ai vécu des moments incroyables avec des coéquipiers, Ricardo et Jeff, qui sont de très bons amis maintenant, des coéquipiers formidables. John Cox, il y a eu des joueurs, c'était l'âge d'or du SUC Nancy, hein, avec des joueurs formidables, John Mehan. Voilà, et Akin Akimbala, avec qui on a été champion. 2 ans et demi, merveilleux. hors sportif et dans le sportif aussi. Franchement, c'était une belle période de ma vie, Nancy. J'ai adoré.
Et, voilà. Et encore une fois, merci, champion de France.
J'ai adoré.
Un match de dingue.
Et puis, j'ai amorti la nuit aussi à Nancy. Hein. La place Stanislas, l'Arc.
Ah, tu connais l'Arc, les caves.
Je connais l'Arc, je connais la place où tu montes l'escalier pour aller en boîte de nuit. Le chat noir avec la piste, la fameuse piste qui
piste tourne.
Le chat noir, le voilà, parc de la pépinière, le playground.
Il n'y a que les gens de danser qui comprendront.
Ouais, exactement. Mais non, j'adore Nancy. J'ai encore beaucoup de contacts, notamment avec le médecin du club qui est un bon ami, Jean-Marc Geoffroy, qui est un très bon docteur et qui, quand j'ai des petits pépins, je lui passe des petits coups de fil encore. Mais franchement, j'ai agréablement surpris par Nancy. Et quand j'en parle à des gens, je dis mais Nancy c'est trop bien. Ils me disent mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, mec, vous êtes fou, c'est trop bien Nancy, c'est vraiment une belle ville. J'adore.
Bah, merci pour le témoignage sur Nancy. Et après, t'enchaînes à Nanterre. C'est bien ça, hein, c'est Nanterre.
J'enchaîne alors. Il y a un petit intermède entre Nancy et Nanterre. Donc la dernière saison, je ne suis pas conservé par Nancy. Donc je reste habité à Nancy parce qu'à l'époque, la mère de mon fils est de là-bas. Donc on reste habité à Nancy et je fais la reprise de la saison avec les Espoirs, avec Pierre Verdière qui m'accueille. Donc je fais toute la prépa avec eux. Très sympa d'ailleurs. Ça me permet de garder le rythme, garder la forme. Et donc la mère de mon fils accouche le 30 août. Donc déjà, j'avais repris avec les Espoirs du SLUC. Elle accouche le 30 août. Et le 1er, j'ai une proposition pour aller à Alicante, en Espagne, le 1er septembre, pour aller faire la prépa avec eux. Et si ça se passe bien, pour signer un contrat. Dur, parce que j'ai mon fils qui a deux jours. Noam, il a deux jours. La mère de mon fils qui est encore à la maternité, tout ça. Je lui dis, écoute, il faut que j'y aille.
T'as pas de club à ce moment-là. Donc,
j'ai pas de club à ce moment-là. Je dis, écoute, j'y vais. Elle me dit, ok, vas-y. Donc je pars à Alicante, qui est là aussi une ville magnifique. Et tout se passe bien. C'est dur, mais franchement, ça se passe bien. Le coach est exceptionnel. Chus Vidoreta, qui a gagné d'ailleurs la Champions League avec Tenerife il y a deux ans, qui est un grand coach espagnol. Je joue avec un joueur qui est Kyle Singler, qui à l'époque était drafté, qui était MOP avec Duke au Final Four de NCAA.
Préciser, ouais, c'est les universitaires.
Ouais, les universitaires, et qui arrivent parce que c'est le lockout en NBA, donc c'est la grève.
Ah, c'est l'année où c'est en 2009, ouais, du coup.
Exactement.
L'année où il y avait c'était à cause de quoi, du coup, qu'ils font les lockouts en NBA, c'était à cause des salaires, c'est ça?
Ouais, il y a un problème entre le syndicat, je sais pas quoi, un problème de salaire et tout. Donc Kai Singler vient jouer en Europe. Bah,
t'as plein de joueurs NBA en Europe là-dedans.
Il vient à Alicante et franchement, c'est une merveille de préparation. Un mois et demi, on fait des matchs amicaux. On bat Valence, on joue contre Flo Pietrus en match amical. Franchement, c'est l'éclate. Et donc, j'ai un contrat avec eux, un contrat validé. Donc, entre-temps, le mois et demi où j'ai la mère de mon fils qui m'appelle, c'est dur. Enfin, elle est toute seule avec mon fils qui a 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai cette pression-là aussi de l'autre côté. Et donc le contrat est bon avec Alicante, donc ils me gardent et tout. Et puis j'apprends deux jours après qu'il y a un joueur américain en fait qui a un passeport espagnol, que son passeport est faux et que donc il va être considéré comme américain. Et donc il y a plus de place comme étranger. Et donc c'est moi qui saute, donc je suis obligé de rentrer. Entre temps, Nanterre m'appelait aussi un petit peu, m'avait envoyé deux trois coups de fil, donc je rentre et je vais à Nanterre. Voilà.
Nanterre qui vient de monter en Pro A à ce moment-là. C'est bien.
Exactement.
Ça. C'était la montée.
Champion de France Pro B.
Tout petit club, du coup. Enfin, petit budget, du moins, en Pro A.
Oui, petit budget, promu. J'arrive à Nanterre. Je me rappelle, j'arrive à Nanterre dans la nuit, 23h30, minuit. Et le logement du club, c'était une grande tour à Nanterre. Où... c'était dur. Moi, je savais à quoi m'attendre parce que à l'époque, il y a très longtemps, j'avais fait une préparation avec eux quand ils étaient en National 1. Donc, je les avais vus, ces immeubles-là. Mais la mère de mon fils, elle a très mal vécu la situation de l'immeuble de l'immeuble d'Antérien. Donc, on a dû changer d'appartement. Donc, le début a été compliqué parce que c'est un club qui part du plus bas niveau possible à Nanterre avec des bénévoles qui sont impliqués, qui ont encore pas beaucoup de moyens, qui découvrent le grand championnat qui est la Pro A avec leurs moyens à eux. Et moi qui leur demande, je veux changer d'appartement, donc ils m'ont vu un petit peu, pas Pascal Donadieu, mais les bénévoles m'ont vu comme là, il vient, il fait sa star, il veut pas habiter avec les autres, il va dans un autre appartement. Donc les débuts ont été compliqués.
Parce que t'étais une dernière, il n'y a pas eu beaucoup de recrues pour la passion.
Non, bah, j'étais peut-être la recrue champion de France en titre avec Nancy, j'étais peut-être un nom français, donc ça s'est ça a mal débuté, mais ça a plutôt bien fini ensuite. Voilà, après, on habite à Rue à ma maison, c'était magnifique, on était contents. Mais voilà, après, on fait une belle première saison où on est promu, on se maintient facilement. Et puis la deuxième.
C'est la deuxième qui est incroyable.
Huitième, la deuxième est incroyable. On fait huitième de la saison régulière. Alors, dans la saison, oui, j'ai des accroches avec Pascal, j'ai des accroches avec mes coéquipiers, je m'embrouille. Je suis plusieurs fois recadré, mais bon. On fait huitième et puis là c'est peut-être la plus belle épopée du sport collectif français.
Parce que vous vous rendez compte, les gens ne connaissent pas, mais au basket c'est quand t'es huitième tu joues du coup.
Huitième en fait t'es le dernier qualifié, ouais, parce que c'est les huit premiers et tu joues le premier. Et tu joues le premier de la saison régulière qui était Gravelines qui avait perdu trois matchs.
Et t'es pas du tout favori quoi.
Ah non. Déjà faire les playoffs c'était exceptionnel c'est pour ce club. Et puis on gagne là-bas le premier match et puis on gagne le deuxième chez nous. Donc on passe en demi, on joue Chalon qui est champion de France en titre. Et on les bat aussi. Et puis on joue Strasbourg en finale, et puis là, ça prend de l'ampleur, en fait, l'ampleur médiatique. Et... parce qu'en plus, on a un club parisien, enfin, un club d'Île-de-France, donc tous les médias sont là autour de nous. Ça fait le buzz, on ne peut pas jouer dans notre salle parce qu'elle est trop petite, on est obligé d'aller jouer à Coubertin.
Les finales, c'était, à ce moment-là, c'était.
C'était plus à Bercy. C'était au meilleur des 5, ouais, premier qui gagne 3 matchs.
Et vous gagnez combien?
On gagne 3-1, sauf que le premier match, c'est à Strasbourg, qui ont l'avantage du terrain, et on en prend 35, je crois. Devant la télé, et là tout le monde pense que c'est fini. Même nous, des fois, on se dit waouh, on va prendre cher et tout. Puis finalement, ce match il a fait plus de mal que de bien aux Strasbourgeois. Et nous, ça nous a permis de les attraper sur le match 2. Et puis après, à Coubertin, on était tellement euphorique sur un nuage, on était intouchable, je pense.
Et du coup, c'est là où tu disais le regret après, c'est que t'as pas été conservé.
J'ai pas été conservé après. Pour la petite anecdote, le lendemain, il y a quand même la célébration du titre où on doit aller à la mairie de Nanterre et machin. Moi, j'y suis pas allé parce que 3 jours avant le match 4, j'ai dit à Pascal, au fait, dimanche, là, il y a la finale de Roland-Garros, j'ai 2 places et tout ça. Moi, j'y vais, c'est sûr, je te le dis. Il me dit, oh, ok, pas de problème et tout. je me rappelle, j'étais en train de m'étirer. Le jour de la finale, le jour du match 4. Et Pascal, il me dit, bon, Stéphane, t'inquiète, hein, pas de souci. Demain, tu peux quand même aller à la finale de Roland-Garros, quoi qu'il arrive. Je dis, ok, très bien. Donc, en fait, on a gagné. Je n'ai même pas fait la célébration. Je suis parti à Roland-Garros le dimanche, regarder la finale. C'était Ferrer-Nadal. En plus, il pleuvait. C'était moisi.
Ferrer-Nadal, 2013, ouais.
C'était moisi. Mais au final, j'ai jamais fait les célébrations. Même à Boulogne, après, j'étais champion Pro B. J'ai jamais fait les célébrations. Parce que j'étais,
Toi, tu l'as fait à Nancy, non? Sur la Pastana.
À Nancy, je l'ai fait, mais j'ai pas fait. Je sais pas, est-ce qu'il y avait le jubilé de Zizou, non, de Royer, comment il s'appelle, le footeur de Nancy là.
Rouillet,
voilà, Olivier Rouillet qui faisait son jubilé, il y avait Zizou, il y avait Platini, et nous on était invités sur la pelouse, c'était le jour où on célébrait, mais j'étais épuisé de ma night parisienne la veille, que je suis resté dormir de chez moi dans mon lit.
Ok, donc pas de célébration.
Non.
Et donc, ouais, donc là, pas conservé, après tu retournes en Pro B après, du coup, c'est ça?
Ouais, enfin d'abord, je retourne habiter chez ma mère. parce qu'entre temps, je me sépare de la mère de mon fils. Je retourne habiter chez ma maman qui habite à Avignon et je reprends la saison avec le club de Sorgue qui est en National 1 à l'époque. Donc, je m'entraîne avec eux, j'habite chez ma mère. Nancy me fait une offre, donc je prends ma voiture, je vais à Nancy. Finalement, je reste une semaine à l'hôtel, je fais les examens médicaux, je fais tous les tests et tout ça pour valider mon contrat. Et finalement, apparemment, j'ai pas le droit de sortir de l'hôtel, donc pendant une semaine, ils me disent faut pas que tu te montres et tout ça. Et pour au final me dire que finalement ça se fait pas, donc je reste une semaine à l'hôtel sans rien faire. Donc je suis déprimé.
Ils te laissent parce qu'ils veulent pas que ça sache.
Ils veulent pas que ça sache, ils veulent pas. Bon, je sais rien. Je sais pas, c'était un Weiss, le coach à l'époque.
Mode parano un peu.
Ouais, après, donc au final, je suis en dépression. Donc là, je me réfugie chez mon pote Germain Castano, mon fameux pote de l'époque que j'ai connu à Mulhouse, qui lui coach Boulogne-sur-Mer en Pro B.
Ah, c'est comme ça que ça se fait.
Et qui est premier du championnat. Donc je vais chez lui au début, je m'entraîne un peu avec eux comme ça. Et puis de fil en aiguille, voilà, ça te dirait, ouais, pourquoi pas, écoute. Et puis voilà, je signe chez eux, on est champion de France Pro B. Et après, on fait une année en Pro A un peu plus difficile où on descend.
Et ton dernier club après, c'est
Cholet, pour boucler la boucle.
Où t'avais commencé, du coup.
Ouais, Cholet, une dernière saison mitigée. Peut-être la saison la plus dure, personnellement, parce que sportivement, c'était très compliqué. Je m'y retrouvais plus. C'est là où j'ai compris que c'était la fin, parce que je m'y retrouvais plus du tout vis-à-vis de certains joueurs qui n'ont pas. plus vraiment d'amour du maillot, plus la haine de la défaite, qui dans le vestiaire, 5 minutes après avoir perdu, ça FaceTime avec les potes, ça écoute la musique.
Toi, t'es plus de l'école, voilà, si on perd, on doit être
Moi, j'ai détruit la vie de mes proches après des matchs de basket. À pas parler pendant 48 heures, j'ai fait vivre le pire des gens qui étaient près de moi après des matchs de basket, être affreux pendant 48 heures, à pas parler à qui que ce soit.
C'est sûr, il y a des limites aussi, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre aussi ceux qui sont... Enfin, des fois, tu vois, les gens sont contents après, juste après un match, ils ont perdu. Enfin,
écoute, moi, j'en ai vu cette année à Cholet, donc ça m'a fait. J'ai souffert. Et puis, il y a eu cette histoire douloureuse aussi où j'ai payé une connerie. Où j'ai payé une connerie de paris sportifs où j'ai parié sur le basket et que je me suis fait. C'était pas des paris. C'était pas un scandale comme Karabatic. Il n'y a pas eu d'escroquerie, il n'y a pas eu de magouille. C'est juste des paris pour le plaisir parce que j'étais sponsorisé à l'époque par Winamax pour le poker et que je devais débiter du crédit et que j'avais pas le temps de faire des tours de poker et que j'avais mis au pif des matchs de basket et des matchs de proa comme un abruti que je suis. Et au final, je me suis fait attraper, mais c'était une histoire dure pour moi parce que qui a été traitée comme une affaire d'escroquerie, de magouille.
Les gens font pas la part des choses.
Il y avait des pushs l'équipe qui arrivaient sur le téléphone de mes parents, Stéphane Brun, Paris illicite. Donc des choses qui ont touché ma famille, qui m'ont touché moi, qui avaient pris dans un engrenage médiatique. Donc ça a été une période difficile de ma vie, cette fin de saison à Cholet. C'était peut-être la période la plus dure parce que j'ai vraiment souffert de cette connerie que j'ai faite. Mais qui a été, je pense, surmédiatisé et que les gens ont fait.
C'est ça que tu contrôles rien en final, parce que quand tu dis, t'as fait un pari, c'est un truc à la con que tu fais à quelques euros. Organisé.
J'ai dû balancer 200 balles pour au final.
T'as pas truqué un match pour parier pas 100 000 balles sur un match, quoi.
Ah non, pas du tout. Pour au final être positif de 5 balles, c'était juste pour me débarrasser de l'argent plus que pour.
Et du coup, c'est ça que tu vois qu'il n'y a pas forcément de part des choses, même des.
Ouais, après, je sais que la connerie, je l'ai faite, c'est ma faute, mais le traitement médiatique qui a été fait, j'ai trouvé ça un peu too much, mais. Ça m'a servi de leçon.
Bon, c'est un mauvais côté. J'avais une question qui était sur c'est quoi le moment le plus difficile de ta carrière. Alors, je sais pas si c'est celui-là. Du coup, enfin, d'un point de vue peut-être, si un truc qui a été compliqué à vivre dans ta carrière.
Ah, celui-là était dur parce que en plus je savais que c'était la fin de ma carrière, que le club de Cholet. En plus, c'était quelque chose qui a été fait quand j'étais à Boulogne en fait, et que ça c'est les répercussions quand j'étais à Cholet. Donc le club de Cholet a été pénalisé. Eux aussi, j'ai trouvé ça. Ils ont. Dans la gestion de l'affaire, j'ai trouvé ça très moyen, mais bon, c'est à l'image des dirigeants du club qui prennent pas forcément les bonnes décisions. Eux me disaient, écoute, on te vire de l'équipe, voilà, moi c'était mes derniers matchs de carrière, donc ne pas les faire, être suspendu, donc
c'était la fin de la saison.
Ça aurait été dur. Après, ils m'ont dit, écoute, bref, ils ont cherché plein de solutions. J'aurais dit, écoutez, moi je veux jouer les deux derniers matchs, parce que j'ai suspendu 5 matchs, après il restait 2 matchs. Donc dis-moi, quoi qu'il arrive, je vais jouer mes deux matchs et tout ça. Donc j'ai dû faire une croix encore une fois. Je fais beaucoup de cadeaux financiers à tous les clubs où je suis passé. Donc je leur ai dit, écoutez, prenez mon dernier mois de salaire, j'en veux pas, mais je vais jouer les deux derniers matchs. Donc ça m'a permis de jouer les deux derniers matchs, mais j'ai été amer de cette fin de saison avec Cholet. Ouais.
Et avant d'enchaîner, pour venir un peu sur ton style de jeu, parce que du coup, tu joues à 4, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, donc c'est
il est fort. Ouais. Ouais.
Donc, et tu tirais beaucoup à 3 points. Quand même, en tout cas, tu contredis si moi de mes souvenirs de ce que je voyais à Nancy, c'est que tu tirais beaucoup, tu avais beaucoup de shoot extérieur. Et du coup, c'était pas trop, c'était moins courant. Il y a 10 ans, on voit beaucoup maintenant à NBA.
Ouais, c'était la mode des ailiers forts fuyants.
Ah, c'était déjà la mode à l'époque quand même.
Ça commençait un petit peu. Ça commençait un petit peu. Maintenant, il y a que ça. Mais c'était.
Parce que le basket, il a évolué depuis.
Maintenant, tout le monde tire à 3 points. Même quand vous faites 2m50, vous pouvez tirer à 3 points. Mais à l'époque, c'était moins courant. Mais c'est vrai que c'était une de mes qualité de passe, de lecture de jeu et qualité d'adresse. C'est sûr que mes qualités athlétiques étaient très, très faibles, mes qualités de défenseur étaient très faibles, mais j'avais cette adresse-là, j'avais cette connaissance du jeu, cette qualité de passe qui me permettait de m'écarter et d'orienter un petit peu le jeu. Donc, je pense que sur ma carrière, j'ai exploité à 100% mes capacités, j'ai réussi à être international, à porter le maillot bleu, à être 2 fois champion de France de Pro A, 2 fois champion de France de Pro B. Donc, je pense que la carrière, avec mes qualités, même si peut-être que j'aurais pu travailler plus, je me suis peut-être pas assez dépouillé par un certain moment de ma carrière au niveau des entraînements et du travail personnel, mais je pense que j'ai quand même bien rentabilisé mes qualités intrinsèques de
après le tir, c'est quand même le shoot, c'est du travail quand même.
Oui, mais alors, certes c'est du travail, mais à la base
T'avais une adresse déjà.
À la base, tous les grands shooters sont, enfin, tous les joueurs de basket sont pas nés avec la même qualité d'adresse.
T'avais une facilité que.
Oui, j'ai toujours été à droite, j'ai toujours une main. Que ce soit au tennis, quand je joue au tennis, j'ai toujours cette main pour les amortis, pour le toucher, que je joue aux fléchettes, que je joue à la pétanque. Okay. J'ai toujours cette qualité de, au tennis de table, j'ai cette qualité d'adresse. Après, forcément, et ça se travaille, hein, la répétition du tir, la répétition des enchaînements sur des situations de tir, c'est du travail en plus, mais à la base, vous n'êtes jamais sur le même niveau d'égalité en termes d'adresse. Il y a des joueurs qui ont cette faculté, ce don, comme un Steph Curry peut avoir un don d'adresse qu'il a décuplé avec, avec forcément beaucoup de travail. Voilà, donc j'ai toujours eu cette adresse un petit peu naturelle.
Et on n'a pas parlé ça avec l'équipe de France, t'as fait deux passages, notamment un pendant juste avant la Coupe du Monde 2006.
Ouais, j'étais dernier joueur coupé avant le championnat du monde au Japon.
Mais c'était quand même, enfin, t'as fait quand même du coup toute la prépa.
Oui, oui, j'ai fait toute la prépa pendant 2 mois et demi. J'ai joué mon premier match. J'ai eu ma première sélection en bleu.
Ça devait être incroyable. Du coup, tu devais être, enfin, le ressenti.
Oui, incroyable, surtout d'arriver là au milieu de Tony Parker, Boris Dio, Flo Pietrus, Ronny Turiaf. Donc oui, j'avais les yeux grands ouverts. La grande équipe de France dans les beaux hôtels.
L'hymne national,
forcément la Marseillaise, tout ce qui va avec. Oui, c'est un kiff. Bien sûr que c'est un kiff. On l'a entendu 10 000 fois ce discours de joueur qui découvre le maillot bleu. Oui, c'était un kiff, mais surtout de découvrir. Ouais,
c'est personnel que quand on le vit, on le.
Oui. Après, ça reste des bons souvenirs, mais j'y pense pas tous les soirs quand je me couche. Mais c'est sûr que le moment, je l'ai bien vécu, j'ai bien profité de chaque instant, de profiter des joueurs avec qui je m'entraînais, de regarder Tony Parker à son prime, parce qu'à l'époque, c'était le très très grand Tony Parker que j'ai pu voir sous mes yeux. Et que ça m'a permis d'apprendre à le connaître et de lier un petit peu d'amitié avec lui. Donc,
j'ai entendu que tu étais parti pendant les finales NBA 2007, c'est ça?
Ouais.
Tu as été rencontré.
Il m'avait dit, ouais, viens voir les finales contre les Cavs.
Là, c'est vraiment, pour le coup, tu parles de son prime, son meilleur niveau en carrière.
Il est MVP des finales quand même. Hein. Donc il marche sur les finales, il marche sur LeBron James, le jeune LeBron James à l'époque.
Ils avaient mis 4-0
exactement, sweepé. Donc j'ai vu que ça de très près chez lui. Là aussi. Là, par contre, tu me parles de beaux moments dans ta vie, de trucs. C'était un moment merveilleux où je me pinçais tous les matins pour me dire
il a pas un petit studio, c'est ça.
C'est la réalité. C'était pas en train de rêver, c'est la réalité, mais c'est pas tout à fait ta réalité à toi, donc profite un petit peu aussi. J'allais à tous les entraînements, je regardais tout ce qui se passait sur le terrain. Manu Ginobili, Matt Bonner, moi j'étais là.
C'était tes premier match NBA que tu voyais ou
Premier. J'étiens comme dans un rêve. Avec Boris.
Et puis même la vie autour aussi, tu as pu aller dans sa maison, son palace,
c'était sa première maison, c'était pas ça
avec le terrain de basket.
On était parti voir le chantier d'ailleurs à l'époque de la construction. Mais ça, c'était un merveilleux moment pour moi. Le rêve.
Et du coup, tu disais que tu avais une bonne relation du coup avec Tony Parker, qui
est président de l'ASVEL maintenant.
Président de l'ASVEL, en fin de carrière maintenant, mais.
Enfin, okay. On ne sait pas de quoi son avenir sera fait.
On sait pas là d'ailleurs.
Mais en tout cas, ça restera le plus grand basketteur français de l'histoire.
Et un des plus grands sportifs français tout court, même.
Écoute, c'est un débat que tu lances, que j'ai souvent à la rédac de RMC Sport et qui me vaut des railleries parce que le basket est souvent raillé là-bas par mes collègues du foot.
Zidane Tony Parker, c'est ça?
Non, pas Zidane Tony Parker, mais moi j'avais dit dans une émission, quand Tony Parker va prendre sa retraite, ça fera autant de bruit que Zidane. Bah, bien sûr, je suis basketteur, donc j'ai envie de mettre en valeur mon sport, donc je suis peut-être dans l'abus, mais pour moi, Tony Parker, c'est peut-être le plus grand sportif français. Il est pas loin d'être au même niveau que Zidane sur ce qu'il a pu faire sportivement. Après, les gens vont me dire oui, mais ça reste en NBA des matchs à 4h30 du matin qu'on voit pas. Enfin, Tony, il a quand même eu un impact sur le basket français aussi. Il a été champion d'Europe.
D'ailleurs, la NBA.
La NBA aujourd'hui, regardez, tu as des matchs le matin, des matchs en replay. Tout le monde, Tony Parker, il n'y a pas un mec qui n'a pas vu un match de Tony Parker sous le maillot des Spurs. Et puis, faire ce qu'a fait Tony Parker pour un Français s'imposer dans un sport outre-Atlantique où à l'époque c'est quand même vachement pro-américain, très peu ouvert à l'Europe. Même si Nowitzki et Tony Parker ont été ceux qui ont permis d'ouvrir un petit peu. Ouais, c'est un autre débat, mais Tony s'imposer comme ça dans le sport américain, c'est exceptionnel. Et puis on disait, après les débats, c'est est-ce que Tony Parker a fait plus pour le sport français que Martin Fourcade? Il me parle de sportifs qui ont certes gagné beaucoup de choses, mais
oui, ce qu'on pourrait comparer avec, je pense, même un Sébastien Loeb ou des, oui, enfin, des Teddy Riner, tous ces gens qui dominent leur ouais, discipline.
Ah, pour moi, Tony, il est tout en haut. S'il tourne la tête, je pense qu'il voit Zizou, hein, Tony.
C'est, je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que ça peut être un long débat. Ouais. C'est pareil, je sais que tu es un grand fan de, pour continuer sur ces débats, de Dirk Nowitzki, du coup.
Ah, Dirk.
Pareil, là, qui a pris sa retraite ouais, il y a quelques semaines.
Bah, c'était un modèle. On a tous, je pense que tous les sportifs, hein, quand on leur pose la question, est-ce que vous aviez un modèle ? Oui, moi, c'était lui. Parce que grand, parce que cette qualité de tir à 3 points.
Il te parlait, le style de jeu te parlait
Le jeu, oui, je m'y retrouvais un petit peu. Très peu de qualité athlétique aussi. Bon, il faisait 2m13, donc c'est plus facile pour dunker que quand vous faites 2m02. Mais je me suis tout de suite identifié à lui. J'ai mangé des matchs de Dirk Nowitzki pour essayer de recopier ses tirs à une jambe, ses tirs à reculons, cette façon de tirer en déséquilibre que parfois j'arrivais à reproduire. Bon, lui, il était bien meilleur que moi, mais j'ai essayé de copier pas mal de choses à lui. Mais je crois que c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer dans ma vie, qui m'a procuré le plus d'émotions, qui m'a coûté des nuits de sommeil aussi, parce que quand il est en finale...
En 2011, la deuxième
Il est déjà en 2006, il me coûte des nuits de sommeil, mais il gagne pas, donc c'est encore plus dur. En 2011, il me coûte des nuits de sommeil, mais il gagne, donc c'est mieux. Et puis la grosse coïncidence, c'est qu'en 2011... Il gagne donc, moi je suis champion avec Nancy, je vais à la maternité parce que mon fils va accoucher, la mère de mon fils s'endort parce qu'elle est une péridurale, donc elle s'endort, donc moi je suis là avec ma Charlotte et mon costume là, attendre, je me fais chier, donc je vais à la maternité, j'achète l'équipe, et il y a une page, en première page c'est Dirk Nowitzki qui va être champion NBA, donc je me tape les deux pages de Dirk Nowitzki en attendant que le petit Noah m'arrive, donc ça c'est aussi un bon souvenir.
Mais t'avais pas vu le match, du coup le dernier tu l'avais loupé.
Pardon.
T'avais pas loupé le dernier?
T'es fou quoi. Je loupe pas la bague de.
Ils avaient gagné, c'était en 5 matchs qu'ils avaient gagné, 4-1 ou 4-2, je sais plus.
4-2.
4-2, c'était.
Ouais. 4-2, il gagne sur le parquet de Miami, et Dirk Nowitzki sait qu'il a gagné, et puis il se barre parce qu'il veut pas pleurer devant tout le monde, il se barre dans le vestiaire avant de revenir chercher le.
Et c'était contre la super team de Miami, la première.
C'était
année.
Chris Bosh.
Chris Bosh, Dwayne Wade
et D-Wade LeBron James. Et LeBron James. Et Chris Bosh, il ramassé, il s'est fait détruire par Dirk Nowitzki sur ses finales.
C'était la première version, le premier échec, du coup. Et par en tout cas pour Miami. Moi aussi, j'aimais beaucoup. C'était quand je suivais le plus au basket, justement 2005-2006. Je me souviens très bien des finales. Bah, ils avaient perdu aussi contre Miami, pour le coup, avec un Dwayne Wade incroyable.
Un très grand D-Wade à cette époque-là.
C'était du 40 points de moyenne, c'était un peu abusé. Donc on va, il y a une période qui, je voulais voir avec toi aussi, c'est la transition après ta carrière professionnelle. J'imagine, enfin, dans quel état d'esprit t'es quand tu sais que ça va être la fin de ta carrière? J'ai vu que t'avais commencé un peu à faire des commentaires avec David Cosette.
Ouais.
Donc, ça devait être sur, ça devait, c'était Sport Plus Canal.
Sport Plus Canal, c'était le groupe Canal, donc c'était Sport Plus.
Donc tu pensais déjà, kiff ou c'était genre je pense à l'après-carrière, c'est un peu un...
Mais en fait, je crois que j'avais fait une interview dans un magazine en me parlant de l'après-carrière où j'avais dit « Ah, moi j'aimerais bien commenter des matchs, ça doit être sympa et tout ». Et en fait...
C'est sorti un peu comme ça genre,
c'est sorti comme ça, David Cosette avait dû voir ça et il en a profité que je joue à Nanterre, donc région parisienne, pour m'essayer sur le mettre 2-3 matchs, vu que c'était pas loin. Donc j'ai fait quelques matchs à l'époque sur le groupe Canal+, et sur la chaîne Sport+, et c'était... plutôt bien passé, David me trouvait plutôt pertinent et compétent, donc à Cholet, quand arrive la fin de ma carrière...
Ça fait peur un peu, du coup, tu dis, parce que c'est un peu...
Peur, non, moi j'ai pas peur, enfin peur, ça peut faire peur aux gens, parce que moi j'ai toujours eu une seule option dans ma vie, basketteur, c'était une seule option, j'avais pas de deuxième option, et à la fin de ma carrière, consultant, j'avais pas de deuxième option non plus, donc il faut réactiver les réseaux. J'avais gardé bon contact avec David, mais qui à l'époque était à l'équipe, où il était plus trop dans le milieu du basket, parce qu'il y avait plus trop de basket sur l'équipe, et c'était Patrice Dumont, avec qui aussi j'avais sympathisé auparavant, qui s'occupait du basket sur ma chaîne sport, parce que les droits étaient sur ma chaîne sport, donc
et c'est partagé avec Bein Sport, j'imagine, enfin c'est les deux qui avaient du basket, quoi.
Ouais, Bein c'était la NBA, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'équipe était déjà bien en place. Donc Patrick, je lui dis écoute, voilà, j'arrête ma carrière à Cholet dans 6 mois, je vais venir habiter sur Paris, parce que je savais qu'il fallait venir vivre sur Paris pour être là, quoi, pour être dans le truc au niveau des médias. Donc je lui dis écoute, si jamais tu recherches un consultant, je suis là. Et puis bah, Patrice a glissé mon nom aussi au patron, il a fait un peu le forcing, et je suis rentré dans le groupe de ma chaîne sport, puis ensuite SFR Sport, et puis maintenant RMC Sport, et puis
C'est la même chaîne, enfin, c'est la continuité, c'est ça?
C'est la continuité, ouais. Machine Sport a été racheté par le groupe Altice, Next SFR. Radio, et SFR, après l'année dernière, changé de nom, maintenant c'est devenu RMC, donc voilà, maintenant je suis dans le truc, là, j'adore.
Ouais, donc là, tu fais plein de trucs, en plus tu commentes...
Ça m'a permis de... J'ai réussi à m'étaler un petit peu dans ce groupe RMC, qui a l'avantage de faire de la télé et de la radio. La radio RMC est ultra implantée dans le sport. La télé se développe de plus en plus, et puis maintenant, on a fait le buzz avec la Champions League, en acquérant les droits de la Champions League, mais ça me permet de faire beaucoup de choses. Donc,
et c'est d'augmenter les audiences du basket aussi, du coup.
Bien sûr, plus d'abonnés. La visibilité des abonnés de Champions League, ça permet de découvrir l'offre basket aussi. Mais j'ai pu vivre des rêves aussi avec ce métier-là. Mon premier Final Four d'Euroleague l'année dernière à Belgrade, qui était exceptionnel en termes de jeu, d'organisation, d'ambiance. C'était le summum du basket européen. J'étais comme un enfant là aussi, comme un enfant de 8 ans. Je regardais tout, j'arrivais 3 heures avant les matchs. Je me rappelle David Cosette qui était au Postcom, qui m'envoyait des messages. Il me dit: t'es où? Je dis: je suis au bord du terrain, je regarde les échauffements des mecs qui s'échauffent 3 heures avant. J'ai étudié tout, la mécanique des mecs, leur mimique d'échauffement. On allait voir les entraînements aussi. Je revoyais des anciens coéquipiers, Bobby Dixon, qui est meneur du Fenerbahçe Istanbul, avec qui j'ai joué à l'époque à Gravelines. Il m'a reconnu, on a discuté. C'était 3 jours à Belgrade, c'était pour l'instant peut-être mon plus beau souvenir de en tant que consultant. Ouais, c'était merveilleux. Après, ça me permet de commenter des matchs du championnat de France aussi, de rester aussi au bord du terrain, de pouvoir continuer à discuter avec les coachs, les joueurs qui ont été mes adversaires par le passé.
Ou les fils, exactement.
Et puis il y a cette activité aussi radio que j'adore. J'adore
parce
vraiment.
Il y a des émissions aussi, il n'y a pas que les matchs.
Il y a des émissions aussi. Il y a une émission chaque lundi soir, 21h-22h, c'est la seule émission de basket d'ailleurs à la radio, où on parle de NBA, bien sûr, de l'actu des Français, et puis ce ton à la radio qui est totalement différent de la télé, et que j'affectionne particulièrement, et puis ça m'a ouvert des portes aussi. J'ai fait des apparitions sur le Super Moscato Show, qui est quand même l'émission phare du groupe et de la radio.
Vraiment depuis très longtemps. Ouais.
Oui, qui en termes de chiffres, je crois, a les meilleurs résultats sur RMC, qui est une émission géniale aussi, avec un ton décalé, et où je m'y retrouve aussi. Et puis voilà, je fais les grandes gueules du sport le samedi matin, où c'est de l'omnisport, parce que je suis spécialiste basket, c'est ce que je maîtrise le mieux, mais je peux parler de tennis, je peux parler de foot, je peux parler de beaucoup de choses, et puis j'ai des avis aussi sur beaucoup de choses, et surtout j'ose dire les choses, et c'est ça, je pense, qui plaît. Donc c'était une meilleure opportunité. Patrice Dumont m'a mis là-dedans, j'en serais reconnaissant. David Cosette m'a mis le pied à l'étrier, c'est des garçons à qui je serais reconnaissant, et aujourd'hui je suis reconnaissant des gens à RMC qui me font confiance et qui n'hésitent pas à m'aider sur des nouvelles choses aussi.
Et ça te prend du temps, j'imagine, parce que tu dois préparer les émissions,
ça prend du temps parce que sur des émissions omni, bien sûr, où on a des conducs qui ne sont pas axés que sur le basket, le basket je peux m'en sortir, même si j'aime bien sûr travailler, avoir des chiffres en ma possession pour parfois débattre et poser des arguments, mais sur des trucs omni, ça demande du travail, il faut aller sur internet pour arriver avec des choses concrètes en main, pas arriver sur un débat rugby et pas savoir quoi dire, sinon tu passes pour une pipe. Donc j'aime bien arriver avec des choses concrètes et un peu de savoir. Donc oui, je bosse chez moi, mais surtout j'adore être là-bas à la rédac, parce que dès que je peux aller à la rédac, j'y vais 3-4 heures avant, je me dis: mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit: moi j'aime bien être avec vous les mecs, on parle de sport, on se chambre, on regarde des vidéos, et ça reste dans le sport. J'adore être à la rédaction RMC, parler avec les mecs, débattre de sport, on se chambre, on fait des kikadis du Moscato Show. cette ambiance bureau que j'ai jamais connue de ma vie, moi j'ai connu que des ambiances vestiaires, et cette ambiance bureau open space où tout le monde discutait les uns et les autres sur le sport, c'est ma passion, j'adore.
C'est super, et du coup pareil pour les matchs, j'imagine que tu dois préparer
Les matchs, oui, chez moi je dois avoir 80 fiches de toutes les équipes avec les numéros, nom du joueur, taille, année de naissance, nationalité, son cursus, tous les clubs où il est passé, essayer d'avoir des anecdotes, et puis chaque match que je fais, il y a un papier avec les dynamiques d'équipe, les stats des joueurs, attaque, défense, les séries, combien de victoires consécutives, le palmarès à l'extérieur, voilà, tous ces chiffres-là qui permettent d'alimenter une rencontre quand tu commences. sorte.
Ils te prennent en, c'est pas inscrit, ils te prennent en employé ou c'est t'as ton entreprise derrière,
enfin, ça se passe comment, j'ai créé mon entreprise SB, okay. SB Communication.
Donc, c'est l'entreprise qui est payée par, enfin par RMC.
Voilà, c'est facturé. C'est des contrats de 10 mois avec un nombre de prestations 5 jours par semaine. Donc c'est des factures de mon entreprise et
ouais, je comprends.
RMC règle à mon entreprise.
Et tu, donc là, le consulting, les commentaires, tout ça, et tu te vois sur d'autres fonctions de basket, éventuellement, tu t'es entraîneur ou je sais pas. Ou
entraîneur, non, entraîneur jamais. Comme Tony Parker, parce que j'ai pas la patience, d'être entraîneur, et pour être entraîneur de haut niveau, il faut d'abord passer par les catégories jeunes, mais ça, je veux bien être entraîneur, il faut me donner le Real, il faut me donner le CSKA direct, tu vois, où les mecs savent tout faire, j'ai juste à dessiner des plays.
Et pas l'équipe des jeunes, hein, les,
non, la grande équipe, donc le coaching, non, pas pour moi. S'il y a un job dans le basket qui me plairait vraiment, c'est manager général, manager sportif d'un club, s'occuper du recrutement avec le coach, gérer les contrats, de scouting, repérer, trouver des joueurs qui jouent dans des championnats un peu moins connus pour faire des découvertes, signer les contrats avec les agents, être en relation avec les agents, organiser les déplacements de l'équipe et tout ça. C'est vraiment un job que j'aimerais bien faire dans un club. C'est le seul truc.
J'en parle souvent avec des potes, on discute de sport aussi et je leur dis s'il y avait un taf, si j'étais milliardaire, que je voulais faire, c'est acheter une équipe NBA. Pour gérer, justement, ce que je trouve en NBA, c'est incroyable, justement, en Europe aussi, mais tu vois, il y a le côté avec la ligue fermée, avec la draft, avec...
Oui, il y a beaucoup de...
Le côté, tu dois gérer tes tours, tu dois gérer tes différentes années,
le côté un
contrat.
Peu football manager, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais bon, faut beaucoup d'argent, là, pour aller racheter...
Pour acheter une franchise NBA, ou il faut gagner plusieurs fois l'auto.
Faut se lever tôt, ouais. Et voilà, ça fait partie des choses qui... Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et non, bah c'est, bah ça fait une longue carrière quand même, c'est 16 ans, plus
16
maintenant,
ans.
Plus maintenant 5 ans déjà, ouais, ça fait 4 ans peut-être que tu fais du consultant.
C'est ma troisième année,
troisième année.
Je sais pas, ça passe tellement vite, je m'en rappelle plus.
Moi j'ai plus les années, mais ça fait pas mal en tout cas. Et du coup, tu as d'autres projets en dehors du basket, ou là c'est vraiment toujours focus basket, ou tu as d'autres. Il y a la First Team aussi, c'est vrai, j'ai pas.
Il y a la First Team. La First Team, c'est une chaîne YouTube qu'on a créée avec les deux associés.
Erwan et Thomas,
qui eux, déjà, auparavant étaient chez Dailymotion. Ils faisaient une émission qui s'appelait le Hoopcast, et ils avaient envie de s'émanciper un petit peu et de se rapprocher de YouTube. Mais donc on a trouvé.
Tu les as rencontrés via Hoopcast du coup?
Non, Thomas, je le connaissais d'avant, d'un ami en commun qui est Kenny Grant, un ancien joueur. Donc on s'est rencontrés comme ça, et puis de fil en aiguille on a discuté. Lui faisait le Hoopcast avec Thomas, donc il s'est dit serait bien de faire un truc à trois, de créer une société. Et donc on est parti à Webedia, on est hébergé à Webedia, qui est quand même un énorme groupe pour gérer tout ce qui est. C'est eux qui gèrent tous les grands youtubeurs français. Et voilà, et puis on a créé cette société.
T'es dans les cofondateurs du coup, t'étais au début.
Moi, on est trois fondateurs de la société.
C'est passé en 2016, ça, quelque chose comme ça.
Ça va faire la troisième année, ouais. 2016 aussi. 2016 qu'on a créé ça. Après, moi, je suis un petit peu plus détaché. C'est vraiment Thomas et Erwan qui sont ultra investis dans le truc. On s'est un petit peu élargi à d'autres sports aussi. À la base, on a fait du basket. Là, on a fait de la Formule 1. C'est la première émission de Formule 1 qui est sortie aujourd'hui.
J'ai vu passer ça.
Les Pistonnés. On a une émission de rugby. On a une émission
foot,
de cyclisme. On a une émission de foot aussi. Donc voilà. Et puis on grandit. On essaye d'améliorer des choses, on fait des émissions de radio aussi le mardi soir où on parle avec des auditeurs peuvent nous appeler pour parler de NBA.
Juste, c'est
voilà, donc eux sont vraiment très très bons, Thomas et Erwan, ils sont vraiment investis dans le truc. Moi, c'est compliqué de consacrer plus de temps parce que mon activité principale elle est chez RMC, mais tous les jeudis je participe à l'émission le First des Shows, et puis on essaie de grandir, on essaie de vraiment travailler avec la NBA le plus possible, parce que le 20 janvier, je crois, 2020...
Il y a un match NBA à Bercy, ouais.
Il y a un match NBA à Bercy.
C'est quoi, c'est Milwaukee-Charlotte?
Milwaukee-Charlotte, exactement. Yannis Antetokounmpo, Nicolas Batum...
Peut-être
Tony
Parker ou pas.
Peut-être Tony Parker, mais la First Team, non, c'est bien. On a été pour la première fois sur l'émission basket, on a été dans les tendances YouTube, on était tendance 27. Numéro 27 des tendances YouTube, donc on progresse, on monte, on monte.
91 000 abonnés sur la chaîne basket. Et je sais plus sur l'autre, la multisport, je sais plus, vous êtes à combien, c'est moins, mais
ouais, c'est
beaucoup,
moins, ouais.
Beaucoup d'abonnés quand même déjà, et on voit justement la tendance, bah vous en faites partie de ceux qui aident ça, mais la tendance de la NBA en France, quoi, et Tony Parker a peut-être été précurseur qui a amené...
Oui, après la NBA, il y a une énorme niche en France, surtout chez la jeune génération. Voilà, les jeux, puis la NBA est bon pour vendre son produit,
ouais,
la brevet d'image,
la basket,
et tout ça.
Et
puis la culture basket, et puis la culture basket NBA, elle s'élargit à la culture musique, à la culture streetwear, lifestyle, le vêtement, les chaussures. Donc il y a vraiment un gros marché à prendre en France là-dessus.
Et toi, du coup, tu vois ça comment, l'évolution de la First Team? Là, vous avez lancé, il y a des projets à côté aussi qui se développent. J'ai vu qu'ils parlaient d'un documentaire en ce moment.
Ils sont en train de faire un documentaire sur les Lakers, sur l'histoire des Lakers, la place des Lakers à Los Angeles dans le sport californien, qui va sortir. Il est en train d'être monté là. J'ai vu les premières parties. On a des très bons intervenants. On a un mec qui est spécialiste journaliste du LA, je sais plus quoi, le
LA Times,
voilà, le LA Times, je sais plus quoi, ouais. On a Ron Artest, Meta World Peace ou Panda ou ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, qui est là comme intervenant. Il y a Rémi Reverchon, il y a Jacques Monclar qui est un grand historien du basket, qui nous parle de tout ça avec des belles images qui a été tournée là-bas par Erwan et par Thomas lors de leur voyage à Los Angeles. Donc ça va sortir bientôt, ça fera 20-25 minutes, mais on communiquera dessus quand ça sera en place.
Il faut que les gens aillent s'abonner, du coup.
Il faut s'abonner à la chaîne First Team. First Team.
Mais même pour ceux qui suivent pas le basket, c'est une bonne mise
Et puis je crois qu'on a cette touche décalée où on est capable de parler sérieusement de basket tout en étant dans la déconnade.
Vrai, même chez RMC, tu peux pas faire ça au final. Enfin,
On va un peu plus loin parfois. On va un peu trop loin même parfois dans la First Team
Ce que j'aime bien, j'en parlais. J'ai d'autres potes qui suivent aussi, et c'est le côté, tu vois, où alors les plateaux seront stylés, enfin tu vois, c'est comme à la télé au final.
Oui,
vous avez rien à envier à une émission de télé. En tout cas, de l'extérieur, on le
ouais,
voit.
Ouais.
Nous, on se rend pas compte, tu vois, derrière ce qu'il y a derrière. On se trouve, ça fait très quali. Et en même temps, c'est la bande de potes qui est là aussi.
Exactement.
Qui est là.
Sur l'émission de jeudi, c'est qu'on a voulu creuser le first day show, un canapé, trois potes qui sont un peu dans leur salon et qui parlent de basket.
Même le lundi, quand tu vois
Erwan
et Thomas, tu vois qu'ils sont potes, et voilà, ça passe bien.
Non, c'est une belle petite aventure. C'est une belle petite aventure qui progresse et qui grandit, surtout grâce, je répète, à mes deux acolytes.
Eh ben super. Écoute, est-ce que d'autres projets, ou en ce moment, ça fait déjà pas mal là, t'as RMC.
C'est pas mal pour l'instant. On arrive sur la fin de saison. La saison a été longue. Là, c'est le sprint final avec les playoffs de GPI qui vont commencer. Dans 10 jours, je vais vivre mon deuxième Final Four. Alors, c'est pas à Belgrade. Belgrade, c'est une belle ville. Là, c'est à Vitoria. C'est un peu moins.
Tu vas voir
moins kiffé.
Je veux qu'il y a la folie là, les deux clubs turcs qui
s'affrontent. Il y a l'Anadolu Efes, le Fener qui s'affrontent en demi-finale. Donc, ça va être le feu. Et l'autre demi-finale, c'est le Real Madrid contre le CSKA Moscou. Donc, il y aura un Français, quoi qu'il arrive, champion d'Europe, parce qu'il y a des Français dans chaque équipe.
Parce que les Français sont très forts. Il y a des très forts Français en Euroleague.
Il n'y a jamais eu autant de Français dominants cette année en Euroleague. CSKA, il y a toujours Nando De Colo qui est exceptionnel. Real Madrid, il y a Fabien Causeur qui est tenant du titre. L'Anadolu, il y a Adrien Moirement et Rodrigue Bobois, l'ancien joueur NBA, qui affrontent le Fener, où il y a Geoffrey Lauvergne qui a rejoint le Fener cette année. Donc, il y a ça à vivre. Et puis, il y a les matchs de l'équipe de France féminine de préparation, en préparation pour l'Euro. Donc il y a pas mal, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur RMC au niveau basket.
Il y a pas la Coupe du Monde, vous l'avez pas?
La Coupe du Monde, c'est on a les matchs de préparation, les matchs amicaux, mais sinon c'est Canal Plus qui détient les droits des compétitions officielles de l'équipe de France féminine et masculine.
J'ai juste une dernière question par rapport à moi je suis plus trop l'Euroleague d'ailleurs, je pense qu'il faut que je m'y remette du coup, mais comment le niveau de l'Euroleague maintenant par rapport pour les top équipes, par rapport aux équipes NBA?
C'est toujours compliqué, la comparaison qu'on aime bien faire maintenant. Ça arrivait dans un passé très récent que des équipes NBA viennent faire des matchs de prépa contre des équipes Euroleague et se fassent accrocher, taper même. On se rappelle que l'Alba Berlin avait tapé les Spurs sur un tir au buzzer de Jamel McLean, le joueur américain de l'Alba à l'époque. Ça s'est rapproché très clairement, que les meilleures équipes Euroleague se rapprochent des équipes du bas-fond de NBA. Maintenant, c'est difficile de comparer. Il y a toujours ce côté athlétique, parce que même les équipes mauvaises de NBA, il y a des joueurs quand même ultra athlétiques.
C'est pas le même sur
quel format? 40 minutes, 48 minutes, une ligne à 3 points à 6,75, ou une ligne à 3 points à 7 mètres et quelques. En tous les cas, il y a beaucoup moins d'écart qu'il y a 15-20 ans entre les top teams de Euroleague et les équipes du bas-fond de NBA. Il y a un paquet de mecs, il y a un paquet de joueurs NBA aujourd'hui qui n'hésitent pas à quitter la NBA pour avoir un vrai rôle en Euroleague. Ouais, ça se fait de plus en plus.
Des Français qui ont tenté l'NBA.
Exactement. Et puis, il y a un paquet de joueurs d'Euroleague aujourd'hui qui dominent l'Euroleague et qui attirent les franchises NBA qui n'hésitent pas aussi à les prendre.
Et le style de jeu qu'on voit en NBA, là, le coup de tir à 3 points, la tendance est un peu similaire en Europe?
Un petit peu. Un petit peu. Il y a toujours c'est un petit peu plus structuré en Euroleague. Ça va un petit peu plus loin, même si ça reste fondamentalement beaucoup de pick and roll. Mais du pick and roll qui est amené un petit peu différemment. Il y a beaucoup moins de gens en ISO quand même que peut présenter l'NBA. Maintenant, NBA, les joueurs sont tellement forts individuellement que c'est compliqué. Et puis tellement adroit aussi à 3 points. Donc, peut-être que la prochaine étape NBA sera de reculer peut-être la ligne à 3 points.
Tu crois la ligne à 4 points?
À 4 points, non, mais reculer la ligne à 3 points.
La oui. reculer, ouais.
Ouais. Je pense. Je pense pour essayer de retrouver un petit peu plus de postes de jeu aujourd'hui. C'est tous les mecs de 2m20 qui se mettent à tirer à 3 points. Pourquoi pas? Ce serait peut-être, s'il y a une règle à changer en NBA, ce serait peut-être celle-là. C'est pas bon.
Il y avait des rumeurs, là, l'histoire de la ligne à 4 points.
Ça ferait un peu trop gadget, ça ferait un peu trop NBA 2K. Hein, donc reculer la ligne à 3 points, pourquoi pas?
Ok. Et pour terminer, du coup, si les gens veulent te suivre, tu les rediriges vers où, des projets que tu fais?
Écoutez, le lundi 21h à la radio RMC Sport, il y a Buzzer Time, c'est l'émission de radio. Après, sur RMC Sport 2, c'est à la télé, il y a une émission qui s'appelle Buzzer à 22h30 où on revient sur l'Euroleague.
C'est du live, du coup,
c'est en direct. C'était hier. Sinon, il y a qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ce week-end, là, samedi, si vous écoutez le week-end du 11 mai, je ne sais pas si ça sera sorti.
Ça ne sera pas sorti,
d'accord. Sinon, le week-end du 17, 18, 19 mai sera sorti.
Ah non, même pas, c'est dans un mois, mais je pourrais mettre en avant d'ici là, mais ça sortira en début juin.
Très bien, bah écoute, il y a les matchs de l'équipe de France féminine qui seront sur RMC Sport, les matchs de préparation, et puis sinon, sur la chaîne YouTube de la First Team, il y a des émissions là avec les playoffs, ça va sortir quasiment une quotidienne. Voilà.
Et ce multisport aussi, la chaîne multisport.
Et la chaîne multisport, si vous aimez la Formule 1, le rugby, le foot et le cyclisme, il y a des émissions chaque semaine. Il y a des émissions chaque semaine sur ces sports-là.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps.
Eh bien, merci à toi d'avoir pris le temps de m'accueillir et d'écouter tout ce que j'avais à dire. C'est très gentil.
Allez, salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc, Curdali, c'est K-U-R-D-A-L-I. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.